Excellent réveil à vous à l'écoute de Sud Radio. Il est 6h.
Parlons vrai. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bonjour à tous et bienvenue, bon réveil à vous sur Sud Radio, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 10h pour le grand matin week-end dont on souhaite une bonne fête à toutes les Zitas qui nous écoutent, c'est la Sainte Zita aujourd'hui. On souhaite aussi une bonne fin de vacances aux Bordelais, aux Clermontois, aux Lyonnais. Dernier week-end de vacances de Pâques pour la zone A, soyez prudents sur la route évidemment. Bonnes vacances aussi aux Corses puisque c'est le début des vacances de Pâques pour la Corse. La Corse qui est une zone à elle toute seule, c'est bien connu. On est ensemble jusqu'à 10h, on va parler de l'actualité de ce samedi matin, notamment la dette française. On sera amené à en reparler longuement. Mais avant ça, c'est la tradition, comme chaque samedi matin, on passe en revue les temps forts de la semaine, ceux que vous avez vécu sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on va parler d'Europe avec l'un des invités politiques de Benjamin Glaize, le ministre en charge de l'industrie. Mais avant ça, parlons de ceux dont on a beaucoup parlé cette année, nos agriculteurs. Sont-ils vraiment aidés par le gouvernement? C'est ce que la ministre de l'Agriculture Culture dira à Benjamin Glaize dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Béziers.
102.6.
Sud Radio.
Chez Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la Sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bon réveil et bienvenue à vous dans le grand matin week-end sur Sud Radio. C'est parti jusqu'à 10h. On passe en revue dans cette première heure les temps forts de la semaine, ceux que vous avez vécu cette semaine sur Sud Radio. On va parler d'Europe dans un instant avec l'un des invités politiques de Benjamin Glaize cette semaine. Mais avant ça, parlons d'agriculture. Tiens, agriculture et Europe, c'est la même chose, c'est indissociable. On en parle avec la ministre de l'Agriculture qui était l'invitée de Benjamin Glaize également cette semaine.
Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaize.
Bonjour à tous, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour.
Bonjour Benjamin Glaize.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Il y a près de 100 jours, la colère des agriculteurs éclatait. Depuis, le gouvernement a pris des engagements. On va voir où on en est, très concrètement, de ces engagements, point par point. Mais d'abord, l'actualité, eh bien, c'est le gel avec un certain nombre de dégâts depuis plusieurs jours. La nuit dernière a été très compliquée pour un certain nombre d'agriculteurs. Elle le sera encore a priori demain, la nuit prochaine. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ces dégâts ce matin?
Non, pas de premier bilan, mais cette situation, elle illustre les difficultés que traversent les agriculteurs et une des causes importantes de la crise agricole ces dernières années, qui n'est pas propre à la France, c'est le dérèglement climatique. Ces quelques dernières années, nous avons des dégâts chaque année qui sont liés à des facteurs climatiques nouveaux, inondations, gel tardif, canicule, sécheresse, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros de pertes de récolte, là où il y a 10 ans, ça ne représentait que quelques dizaines de millions d'euros, et c'est un des enjeux sur lequel nous devons agir, et c'est pour ça aussi qu'il faut remettre en perspective cette crise qui n'est pas que française, puisque en Europe et dans le reste du monde, les agriculteurs sont sous pression en ce moment.
Est-ce qu'on peut parler en tout cas sur cette période de gel tardive, d'un événement d'ampleur, en tout cas de dégâts d'ampleur exceptionnelle? Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que vous attendez à cela? Est-ce que ça vous inquiète à ce niveau-là?
Tout dépend de où vous mettez l'exception, puisque nous avons cessé de battre des records ces dernières années, et donc on ne sait plus très bien ce qui est exceptionnel de ce qui est du récurrent. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera aux côtés de nos agriculteurs qui aujourd'hui agissent sur le terrain pour faire en sorte de sauver, notamment en arboriculture, leur récolte, et qu'on fera le point avec eux, comme on le fait à chaque fois qu'il y a des épisodes, pour pouvoir les accompagner au mieux.
C'est-à-dire que selon l'ampleur des dégâts, il y aura une enveloppe financière exceptionnelle qui pourrait être débloquée ?
Écoutez, je ne vais pas lire dans le marc de café. Ce que je sais, c'est que ces 7 dernières années, nous avons toujours été aux côtés des agriculteurs dans les temps et en tenant nos engagements.
Donc si l'ampleur des dégâts est importante, il y aura une aide en tout cas débloquée.
Je n'annonce rien. Ce que je dis, c'est que pour le moment, il faut être aux côtés des agriculteurs, faire en sorte qu'ils traversent ce cap. Mais vous le savez, que ce soit sur la MHE cette année, des enveloppes ont été débloquées. Mmh. Sur les pertes de betteraves l'année dernière, des enveloppes ont été débloqués et nous avons toujours été à la hauteur. Maintenant, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait moins de dégâts possibles. C'est peut-être la meilleure façon de répondre à la situation.
Pour cela, il y a aussi la possibilité d'équiper davantage les arboriculteurs, les viticulteurs, pour éviter qu'ils soient victimes à ce point de ces gels tardifs. Certains demandent justement qu'on les aide davantage à s'équiper. Est-ce que c'est une possibilité envisagée par le gouvernement aujourd'hui ?
Je crois qu'un des grands enjeux dans les années qui viennent, c'est de permettre aux agriculteurs de s'adapter aux dérèglements climatiques. C'est-à-dire de pouvoir s'équiper effectivement face aux nouvelles agressions que subissent leurs cultures. Ça peut être donc ces différents événements. On sait que on soutient aujourd'hui des agro-équipements en les développant au travers du plan France 2030. Donc on n'a pas attendu de constater cette situation pour accompagner le développement de nouveaux équipements, mais également d'apporter des soutiens aux agriculteurs pour s'équiper, que ce soit contre les ravageurs, que ce soit contre des situations de difficulté,
les aléas climatiques.
Un exemple qui a l'air d'être très éloigné, mais en réalité qui peut faire partie de la panoplie, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme permet de gagner 1-2 degrés en situation de gel, c'est-à-dire c'est ces panneaux photovoltaïques qui sont positionnés notamment au-dessus des arbres en arboriculture ou des vignes en viticulture. Elle permet de protéger aussi les cultures contre la grêle, contre les pluies massives. Elle permet de gagner à quelques degrés en moins lorsqu'il y a des canicules. Donc on le voit, on commence à multiplier la panoplie des réponses face au dérèglement climatique. Et c'est un des enjeux sur lesquels nous allons travailler avec Marc Fesneau.
Sur l'aide à l'investissement, je voyais 20 millions d'euros par an pour aider à s'équiper justement face à ces aléas climatiques pour les agriculteurs. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ces aides vont être augmentées ou pas ?
N'oublions pas que nous avons aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dans le budget du gouvernement pour accompagner le monde agricole et le monde forestier à leur transition agroécologique. Et cette transition, c'est à la fois améliorer leur bilan environnemental, baisser les émissions de gaz à effet de serre, préserver le puits carbone et diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, mais c'est aussi leur permettre de s'adapter aux dérèglements climatiques et donc d'être plus résistants. Donc nous avons mis les crédits. 1,3 milliard d'euros, c'est une somme inédite dans l'histoire du budget de l'agriculture. Ça va en plus de la politique agricole commune, 9 milliards d'euros, dont je rappelle que c'est le premier budget de l'Union européenne. Un tiers des finances de l'Europe viennent en soutien des agriculteurs européens.
On va revenir sur les produits phytosanitaires, également sur la PAC déjà pour parler de cette colère agricole et des annonces faites par le gouvernement sur les aides liées à la PAC. On en est où aujourd'hui, notamment sur les agriculteurs, pour les agriculteurs bio justement, est-ce que ces aides ont été versées ?
Alors, le gouvernement avait pris l'engagement de payer toutes les aides du premier pilier
au 15 mars.
Ça a été fait. Donc ça, nous avons tenu nos engagements. S'agissant des aides pour les agriculteurs bio, vous le savez, ce sont des aides qui ne sont pas payées au mois de mars habituellement. Vous avez un délai et notre objectif est de les payer entre mars, puisque les paiements ont démarré entre mars et juin.
C'est-à-dire qu'on a une première estimation là du nombre justement de ces aides aujourd'hui débloquées pour ces agriculteurs bio.
Les agriculteurs bio ont bénéficié de la première tranche d'aide qui constitue une grosse partie des aides et ils vont bénéficier des aides complémentaires sur le bio. Et notre objectif, c'est de terminer tous les paiements d'ici le mois de juin.
En ce qui concerne le projet de loi agricole, c'est l'une des réponses majeures, on va le dire, du gouvernement à cette colère des agriculteurs. Ce projet de loi a été présenté début avril en Conseil des ministres. quand sera-t-il débattu à l'Assemblée et pour une application, une adoption autour de quelle date? C'est quoi l'objectif?
Alors, passage à l'Assemblée nationale mi-mai, passage au Sénat grosso modo mi-juin. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord, c'est un projet de loi qui pourrait être adopté avant le mois
avant
d'août.
L'été, ouais.
Avant le mois d'août. Sinon, une deuxième lecture sera nécessaire, mais là encore, l'objectif est évidemment de l'adopter avant l'automne.
Ah, entre-temps, il y a eu la saisine du Conseil constitutionnel. À l'initiative de la France insoumise, on en est où à ce niveau-là?
Eh bien, le Conseil constitutionnel a quelques jours pour se prononcer, mais c'est une manœuvre politicienne de la France insoumise qui n'aura aucun impact sur le calendrier, puisqu'il pointe les défauts de l'étude d'impact, dont le Conseil d'État reconnaît lui-même qu'elle est globalement satisfaisante, ce qui est dans la bouche
avec quelques réserves tout de même sur certains points.
Je vais aller jusqu'au bout, ce qui est dans la bouche du Conseil d'État est plutôt un satisfecit, et elle a été complétée sur les deux points sur lesquels le Conseil d'État souhaitait des compléments, c'est-à-dire que la France insoumise laisse entendre qu'il manque des choses. Nous l'avons complété entre deux, et le Conseil constitutionnel jugera, mais le calendrier est préservé.
Vous avez bon espoir en tout cas que le calendrier soit préservé et que la décision du Conseil constitutionnel aille dans votre sens.
Les agriculteurs ne comprendraient pas que, parce que nous avons remis une étude d'impact de 250 pages fouillée, détaillée, certains groupes politiques essayent de faire dérailler ce projet alors qu'il est utile. On est vraiment dans la politique politicienne.
On est une décision politique qui fait du mal avant tout aux agriculteurs.
Mais évidemment, puisque l'objectif c'est d'essayer de retarder l'examen d'un projet qui est attendu par les agriculteurs et qui a été co-construit avec les agriculteurs.
L'invité politique sur Sud Radio, c'est toute la semaine à 8h30 jusqu'à 9h. Cette semaine, c'était Benjamin Glaize. À partir de lundi, ce sera Jean-Jacques Bourdin qui reviendra sur Sud Radio. Tout de suite, on parle d'Europe avec le ministre de l'Industrie qui était aussi l'invité de Benjamin Glaize cette semaine.
Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaize.
Mon invité politique aujourd'hui, c'est le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure. Bonjour et merci d'être avec nous ce
merci
matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron, donc, qui a prononcé son discours sur l'Europe depuis la Sorbonne, 7 ans après son premier discours, allocution fleuve, je crois qu'on peut le dire, hein, près de 2 heures. L'Europe est mortelle, ce sont ses mots. Il a parlé également de la question de mettre en place un bouclier antimissile européen. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux auparavant ou pas?
C'est quelque chose qui se discutait, et notamment les Allemands avaient mis en avant cette idée pour l'Allemagne. Bon, d'abord, est-ce que l'Europe est mortelle? Oui, l'Europe, elle est jeune. L'Europe, c'est une construction qui a moins de 70 ans aujourd'hui. Donc c'est pas un pays, une nation comme la France, millénaire, qui est inscrite dans l'histoire et qui se projette dans les siècles qui viennent. Donc le fait de dire que l'Europe est mortelle aujourd'hui, je pense que c'est un réveil bienvenu sur l'intensité du moment. Surtout
si elle est mortelle, c'est-à-dire qu'il y a des menaces très concrètes.
Non mais bien sûr, j'allais y venir. C'est-à-dire surtout que l'Europe aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle est assiégée. D'abord, on a la guerre aux portes de l'Europe. Et cette guerre, liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une guerre existentielle. Derrière l'Ukraine, c'est effectivement une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'Europe qui est attaquée. Elle est assiégée aussi d'un point de vue des ingérences sur nos réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, dans nos réseaux. Le président de la République l'a dit, nos réseaux d'énergie peuvent être attaqués. Donc on a un enjeu de siège, il faut le reconnaître, virtuel, cyber. Et puis, elle est aussi assiégée d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on a deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, qui ne jouent plus le jeu suivant les règles qui étaient en phase depuis une trentaine d'années. Depuis 30 ans, on se disait, la concurrence libre et non faussée, le commerce international va régler tous nos problèmes, ça va amener la paix dans le monde et la prospérité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a deux pays, la Chine et les États-Unis, qui sursubventionnent leurs industries. Et donc, il faut qu'on fasse face, à ce triple siège, un siège géopolitique, un siège cyber et un siège économique. Et pour ça, il faut réagir, il faut se projeter.
J'en reviens à la question de la sécurité et de ce bouclier antimissile européen. Est-ce que là-dedans, on peut imaginer de mettre en commun notre dissuasion nucléaire avec d'autres pays, avec les autres pays de l'Union européenne?
Là-dessus, le président de la République a été très clair. Il ne faut rien s'interdire, il ne faut pas non plus préempter les débats.
Donc c'est une possibilité.
Ben, ça fait partie des choses dont on pourra discuter avec nos partenaires. Quand on voit ce qui se passe à Kiev ou à Lviv aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Israël, la réflexion autour de boucliers anti-missiles se pose, forcément. Même si, évidemment, l'Union européenne est une énorme zone, beaucoup plus vaste que celle dont on parle, Israël d'un côté ou Kiev et Lviv de l'autre. Mais cette question se pose. Et par ailleurs, on le sait, la France est la seule puissance dite dotée, c'est-à-dire qui est dotée de l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Donc la manière dont la France peut intégrer évidemment ce fait dans la défense européenne et la manière dont l'Union européenne peut intégrer ce fait dans sa réflexion autour de la défense est bienvenue. Maintenant, vous le savez, la puissance nucléaire a une vertu énorme, d'autant moins qu'on en parle. Elle est là, on le sait, et puis voilà.
On n'en dit pas plus, mais on aura compris. La porte est ouverte à ce sujet. Quand on parle de menaces, de ce qui menace l'Europe, est-ce que les souverainistes, qui concrètement sont de plus en plus présents, augmentent de plus en plus dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, est-ce que là aussi c'est une menace très claire pour l'Europe,
selon vous ? Bien sûr, depuis 5 ans, et en fait depuis 7 ans, depuis le premier discours de la Sorbonne, on a réussi à inscrire une Europe où c'est au fond le centre. Et dans ce centre, il y a la délégation française Renaissance au Parlement européen qui font les majorités. Et donc, on a réussi à avancer, ça vous surprend pas que je le dise, en même temps, un peu à gauche et un peu à droite. On a eu à la fois des dispositions extrêmement ambitieuses sur la transition environnementale, mais aussi des dispositions très ambitieuses sur la compétitivité européenne, sur la gestion des frontières, le fameux pacte asile-immigration qui permet à la fois de mieux préserver les frontières européennes, mais aussi d'intégrer davantage, de manière plus équilibrée, les immigrés qui ont vocation à entrer en Europe. Donc,
et pourtant, les listes souverainistes d'extrême droite n'ont jamais été aussi hautes, quoi.
Le risque, il est là aujourd'hui. Le risque, il est que plutôt que les majorités se fassent au centre, au Parlement européen, le risque c'est qu'elles se fassent à l'extrême droite. Donc il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça que tout ce qu'on porte dans cette campagne, notre capacité à, par exemple, réconcilier économie et écologie, c'est-à-dire faire de l'écologie à la fois un fer de lance de ce qu'est l'Europe et de ce que sera l'Europe, le premier continent décarboné au monde, mais aussi d'en faire un gage de prospérité. Moi je porte ça tous les jours. L'industrie française, l'industrie européenne verte, elle doit être un gage de prospérité dans tous nos territoires, y compris dans les territoires où le Front National, le Rassemblement National a prospéré. L'industrie, c'est une arme anticolère, c'est une arme d'espoir. Et il faut utiliser cette arme en France et en Europe.
Pour terminer sur ce discours d'Emmanuel Macron, discours de campagne, oui ou non, et puis au-delà de ça, quand on parle de souveraineté, notamment française, on a l'impression qu'on entendait surtout le terme de fédéralisme presque. On était plus sur une Europe fédérale présenté, vendu par Emmanuel Macron plutôt qu'une Europe des nations.
Moi, je me méfie, des guerres de religion ou des guerres qui consistent à prendre des mots un peu mythiques et à les opposer les uns aux autres. La réalité, on le sait bien, c'est que l'Europe ne sera pas forte si les nations qui la composent ne sont pas fortes. Mais la France ne sera pas forte dans le monde dans lequel on est aujourd'hui si l'Europe n'est pas forte. L'Europe, c'est un équilibre entre des pays forts dans une équipe encore plus forte. C'est une équipe de foot, l'Europe. Une vraie équipe de foot n'est forte que quand les 11 joueurs jouent ensemble. On est à 27. C'est parfois un peu plus compliqué de jouer à 27 qu'à 11. Mais si on joue pas ensemble de manière solidaire, coopérative, reconnaissant les différences, les talents différents des uns et des autres, on va perdre la partie parce que face à nous, on a 50 États, les États-Unis, et un certain
donc
nombre de provinces de la Chine qui sont très
forts.
On peut
avoir une souveraineté française et une souveraineté européenne en même temps.
Regardez, les médicaments. Moi, j'étais à Bruxelles cette semaine pour annoncer le lancement d'une alliance des médicaments critiques. Ça veut dire quoi ?
Au niveau européen, oui.
Au niveau européen. Parce que, évidemment, on l'a vu face à la Covid, si on n'est pas fort en européen sur les médicaments, on n'y arrivera pas. On a été le continent, j'aurais aimé qu'on l'invente, le vaccin, mais en tout cas, on a été le continent qui a produit le plus de vaccins et qui a partagé ces vaccins de manière à vacciner tout le monde en Europe. Ça a été un exemple unique. On a aujourd'hui un projet de relocalisation de médicaments critiques en France et en Europe.
On en est où aujourd'hui ?
On avance. On a 25 médicaments qui sont en train...
On parle beaucoup du paracétamol.
Le paracétamol, ouais. On a deux usines qui vont ouvrir en France. Le Curare, des médicaments contre le mélanome, contre le cancer du pancréas, sont en train d'être rapatriés en France. Mais si demain on a 27 usines de paracétamol en Europe, je suis pas sûr qu'on sera très efficace. Donc il faut à la fois que chaque pays ait sa politique de souveraineté parce que la politique de santé reste évidemment nationale, mais qu'on se coordonne de manière à éviter qu'on ait 27 usines de paracétamol en France. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. L'Europe, c'est un équilibre entre des nations fortes et un collectif d'autant plus fort.
Et on sera amené à en reparler de l'Europe. Tiens, est-ce que l'Europe peut mourir, comme l'a dit Emmanuel Macron cette semaine? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio et nous appeler aussi au 0826 300 300. Loin du continent européen, mais toujours en France, il y a un département qui s'appelle Mayotte et qui est en proie à une crise dramatique. On va en parler avec la ministre de l'Outre-mer dans un instant. La crise à Mayotte, est-ce qu'on peut aider ce département? Mais avant ça, parlons aussi des élus locaux, nos maires, M-A-I-R-E-S. Sont-ils en danger? Qui veut la peau des maires? C'est ce que vous expliquera l'un des invités d'André Bercoff. C'est dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Écoutez Sud Radio Lille en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonne fin de vacances aux Bordelais, aux Clermontois, aux Lyonnais qui terminent leur dernier week-end de vacances de Pâques. Bonne vacances aux Corses aussi qui nous écoutent et qui commencent leurs vacances de Pâques aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le tour de l'actualité de ce samedi matin. Mais avant ça, c'est la tradition dans la première heure du grand matin week-end. On passe en revue les temps forts de la semaine sur Sud Radio. Dans quelques minutes, la crise à Mayotte. Comment en sortir? On verra ça avec Benjamin Glazé, son invité. Mais avant ça, qui veut la peau de nos premiers magistrats? Les maires, M-A-I-R-E-S, on en parle avec André Bercoff sur Sud Radio.
Sud Radio, André Bercoff. Ça balance pas mal. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Je hais les gens faux et hypocrites. Je hais la lâcheté morale. Je ne hais pas celui qui fuit sous les bombes, car je hais la guerre. Je n'aime pas la musique dodécaphonique, qui, comme son nom l'indique, compte les demi-tons comme on compte les huîtres à la douzaine. Je n'aime pas les meubles modernes. La pluie, quand elle
s'attarde. Vous avez reconnu, même s'il ne chante pas, c'est Léo Ferré. Je vous hais. Je vous hais. Alors lui, ça n'a rien à faire. Effectivement, ce ne sont pas les maires qu'il hait. Mais effectivement, tous les empêcheurs, tous les gens qui essayent de penser en rond et qui ne sont que dans les passages cloutés. Mais là, il y a quelque chose de passionnant. Est-ce que les maires vont disparaître? Vous allez me dire, mais comment les maires? 36 000 communes, 36 000 maires, ça marche très très bien. Pas du tout. Et Luc Châtel va publier, il sort jeudi, un livre que je vous recommande, « Qui veut la peau des maires de France ?» Parce que on se dit, le maire, en général, ça marche très très bien. Ça sort au Cherche Midi, hein, le livre. Et puis, Luc Châtel, vous le dites vous-même, d'ailleurs, dans les sondages, dans les écoutes, au sein du monde politique, les maires se distinguent favorablement en recueillant la confiance de 3 Français sur 4. 3 Français sur 4 aiment les maires. Et en même temps, vous commencez votre livre, et c'est vraiment bourré d'enseignements, c'est que le nombre de maires qui veulent s'arrêter, qui n'en peuvent plus, qui veulent partir, et effectivement, est-ce que franchement, le maire, la fonction de maire, est une institution qui peut mourir?
Alors moi, là, clairement, elle est en train de dépérir, oui, pour deux types de raisons. Ouais. D'une part, il y a la fatigue personnelle des maires et les agressions personnelles des maires. Et le livre est parti de ça, ouais. Des deux agressions spectaculaires très médiatisées qu'il y a eu en 2023 à La Île-et-Rose et à Saint-Brévin-les-Pins.
Oui, où une voiture, rappelons, que c'était une voiture bélier, a enfoncé la maison.
Et tire au mortier sur la maison où le maire n'était pas là, c'était le début des émeutes, il était dans sa mairie, sa femme et leurs deux enfants dormaient, et donc sa femme a dû s'enfuir avec les deux enfants, et d'ailleurs elle s'est blessée en s'enfuyant par le jardin. À Saint-Brévin-les-Pins, sa maison, il dormait avec sa femme dans sa maison. Sa maison a été incendiée en pleine nuit. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce n'est que exceptionnel, ou est-ce que derrière il y a une réalité?
Et vous avez découvert énormément
Eh bien oui. Ouais. Et donc j'ai été stupéfait, parce que en plus moi c'est un sujet que j'étais journaliste pendant 25 ans, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, donc je connais, j'ai rencontré beaucoup de maires et jamais j'avais entendu ça. Donc là je découvre à la fois un nombre d'agressions incroyables.
Vous donnez une liste à la fin de votre livre. 53 agressions violentes en 2023.
Ce n'est que celles qui sont connues, qui sont rendues publiques, parce que ce que je dis dans le livre... Non, là, par exemple, je donne le chiffre du ministère de l'Intérieur qui a encore été rendu public, mais pour 2023, 2700 plaintes et signalements d'élus, dont la plupart sont des maires.
2700.
Et en hausse de 15% par rapport à l'année précédente, et entre 2021 et 2022, il y avait déjà une hausse de 30%. Donc on est clairement sur une augmentation. Et derrière ça, ce que je raconte aussi avec beaucoup de témoignages, c'est que des maires disent, d'une part, qu'ils ne veulent pas porter plainte. Alors pour deux types de raisons. D'abord parce que parfois ils ont peur, en fait, quand on a.
Ça se comprend.
Et souvent, et le problème se pose dans les petites communes. Et moi, le livre est vraiment très axé sur les petites communes. Et je rappelle, parenthèse, que en France, nous avons la moitié des communes, donc 18 300 communes à peu près, sont des communes de moins de 500 habitants.
Ouais.
Et vous avez 97% des communes de France qui font moins de 10 000 habitants. Les communes françaises, c'est des petites et moyennes communes. Et quand vous êtes élu d'une petite commune de quelques centaines d'habitants, vous connaissez tout le monde. Donc à partir du moment où vous êtes pris à partie, alors déjà, vous êtes plus souvent pris à partie puisque tout le monde vous connaît, donc ça arroge le droit de venir vous interpeller, voire de vous insulter. Et par ailleurs, beaucoup me disent, mais quand on est pris à partie, c'est très compliqué parce que une des raisons les plus fréquentes, c'est les conflits de voisinage. Moi, je vais devoir prendre parti entre deux personnes que je connais. Comment prendre parti? Donc, les maires ont cette pression constante, donc pression physique, et je donne beaucoup de descriptions parce que il y en a à la fois beaucoup plus que moi ce que je pensais d'agression, et elles sont hyper violentes.
Est-ce que cette violence, alors Luc Châtel, ce qu'ils vous ont dit, les personnes que vous avez enquêtées, les maires, etc., ça a augmenté depuis quelques années? Est-ce qu'ils sentent un accroissement vraiment de la violence?
Alors, eux ressentent. Il y a un critère qu'on peut prendre aussi. Alors, il y a deux types de critères. Il y a déjà des critères très concrets de type d'attaque, et donc il y a vraiment des tentatives de meurtre. Quand des personnes vont couper les freins d'une voiture ou trafiquer des voitures, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, et bon, alors les maires ne sont pas morts, mais ils auraient pu mourir si ils s'étaient pas rendu compte que. Et il y a un autre critère dont je parle pas mal. Alors, qui est plus un critère d'agressivité. Alors, qui se mesure en fait très précisément. Je cite beaucoup d'études pour vraiment m'appuyer le plus possible sur des faits. À partir de l'étape un peu décisive, ça a été la période du Covid. Confinement.
Où les gens sont enfermés au confinement.
Le repli sur soi. Ce dont parlent beaucoup d'élus et de personnes citées dans d'autres études qui concernent d'autres domaines, c'est la coupure du lien social. J'ai un maire là de la Nièvre que je cite pas mal dans le bouquin parce que je trouve que sa situation est exemplaire.
Ouais.
Le maire de Brassy, village de 600 habitants dans la Nièvre, c'est vraiment une commune assez symptomatique parce que la ville la plus proche est à 80 km, c'est Nevers, c'est une ville un peu coupée de tout. Lui, c'était un jeune maire, je l'avais rencontré il y a 15 ans, il venait d'être élu pour son premier mandat, il avait une trentaine d'années, il avait la pêche, et là il se trouve que pendant que je faisais le livre, à un moment, il m'écrit, il me dit je vais démissionner, c'est fini, j'en peux plus. Dans sa commune, il m'a dit qu'avant le confinement, il y avait la cérémonie des vœux, comme ça se fait dans toutes les communes, et c'est vrai que dans les petites communes, la cérémonie des vœux, c'est le moment où tout le monde peut venir voir le maire, et le maire se sent volontiers accessible,
Les vœux de fin d'année, oui, c'est ça.
Voilà, pour rencontrer soit les nouveaux habitants, puis parler des problèmes. Bon, moment de convivialité, de lien social par excellence. Et il m'a dit qu'à partir du Covid, il y a deux fois moins de personnes qui viennent parce que les gens ont eu l'habitude aussi de faire du présentiel. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des comportements, et c'est pour ça que j'ai cité une des parties des citoyens consommateurs.
Ouais.
C'est que le Covid a aussi renforcé, et là je cite une étude très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, qui dit que ça a renforcé vraiment le poids de la consommation dans les habitudes sociales des Français. C'est-à-dire qu'on était chez soi et puis on a pris l'habitude notamment de commander des livraisons. Donc forcément, quand on commande par livraison, on a envie que le livreur arrive à l'heure. On est un peu plus anxieux.
Vous voulez dire ça, l'anxiété a quand même augmenté la violence quelque part.
Ouais.
De stress,
l'agressivité,
etc.
Parce que les maires disent tous que désormais ils sont confrontés à des personnes qui veulent, c'est un peu l'expression qui revient, qui veulent tout de suite en fait. Et parfois, et là c'est là où c'est quand même assez étonnant, c'est que on en vient donc à des actes de violence ou enfin même des injures, mais parfois pour rien. Et la plupart des enjeux, c'est vraiment pas grand,
c'est
pas grand chose.
Enfin, ouais,
c'est
enfin,
des feux sauvages dans un jardin, c'est des décharges publiques, c'est je veux construire mon cabanon dans mon sans permis de construire. Donc des choses comme ça ou des conflits de voisinage qui dégénèrent de façon très violente.
Berkoff dans tous ses états, c'est toute la semaine ou presque de midi à 14h sur Sud Radio. Tout de suite, place à une autre invitée politique. On va parler de l'outre-mer. On part en direction de Mayotte avec Benjamin Glaise.
Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise.
Bonjour à tous, Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Un an après l'opération Wambushu, l'opération Place Nette a été lancée il y a exactement une semaine pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre l'insécurité. Quel est le premier bilan que vous dressez de cette opération qui doit se poursuivre jusqu'à fin juin?
Mayotte Place Nette, vous l'avez dit, ça va se poursuivre pendant 11 semaines. C'est la mobilisation de 1700 policiers et gendarmes sur l'île de Mayotte, 374 km² pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. L'opération, elle consiste à viser trois objectifs. La lutte contre l'immigration clandestine, donc clairement expulser des étrangers en situation irrégulière. Deuxième objectif, la destruction d'habitats informels, les bangas. Donc 1300 bangas à détruire au cours des 11 semaines. Et puis la lutte contre les bandes, 60 chefs de bandes ciblés, identifiés, à interpeller au cours de ces 11 semaines.
Après, on en est où justement aujourd'hui?
Une semaine, même moins d'une semaine, après le lancement d'opération Place Nette, on a 250 bangas qui ont été détruits, donc 250 bidonvilles détruits. C'est un quartier entier de Mamoudzou qui a été nettoyé de ces bangas, de ces bidonvilles. Nous avons eu 4000 contrôles, 100 interpellations de délinquants, et parmi ces 100 interpellations de délinquants, 6 chefs de bande, 50 armes
sur
aussi,
les 60 ciblés.
Sur les 60 ciblés, donc 10% des cibles que nous nous étions fixées sont d'ores et déjà interpellés moins d'une semaine après le début des opérations Place Nette. J'ajoute aussi, c'est un point important, que une cinquantaine d'armes ont été également saisies dans le cadre des opérations qui se déroulent actuellement à Mayotte.
Vous l'avez dit, lutte contre l'immigration illégale. Est-ce qu'il y a eu des interpellations justement de migrants en situation irrégulière, également de passeurs au cours de cette semaine?
Depuis mardi dernier, on a 530 ESI qui ont été étrangers en situation irrégulière, qui ont été interpellés. Et puis nous avons mis en place des moyens de surveillance, notamment maritimes, qui ont permis hier le démantèlement d'un trafic de pêche illégale. On a saisi une tonne de poissons pêchés illégalement. Et 10 quassa, donc des quassa, c'est des embarcations.
C'est des embarcations, oui,
voilà.
C'est ça.
10 quassa, et du coup, des individus se livrant à ces trafics ont également été interpellés hier en fin d'après-midi.
Wambushu, c'était il y a un an. Marine Le Pen dit que ce soit pour Wambushu ou pour cette opération Place Nette, on est sur une opération communication surtout. Que lui répondez-vous?
Mais Marine Le Pen, elle fait de la communication. Elle en fait même d'ailleurs depuis 30 ans. Elle est en campagne électorale permanente. Moi, je considère que ce qu'elle dit, c'est une insulte aux forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le territoire de Mayotte. On a, je vous l'ai dit, 1700 policiers et gendarmes engagés à Mayotte. On peut leur dire que ce qu'ils font...
Jusqu'à fin juin.
Jusqu'à fin juin.
Mais après
On peut leur dire jusqu'à fin juin, et de façon... En fait, le renfort effectif de l'opération Place Nette, c'est 100 personnes en plus. La réalité, c'est qu'il y a 1600 personnes engagées de façon permanente à Mayotte. Donc, on peut venir à Mayotte faire du tourisme électoral et expliquer que l'engagement des forces de l'ordre, c'est de la communication, c'est la responsabilité de Marine Le Pen, c'est pas la mienne.
Elle propose quelque chose de très concret, la création d'un centre de rétention administrative flottant pour éviter que ces migrants mettent un pied à terre à Mayotte. Est-ce que c'est une solution qui vous semble intéressante?
Non, je pense que c'est de l'ordre du gadget, ça frappe les esprits. En fait, encore une fois, la spécialité de Marine Le Pen, c'est au fond de constater... des choses qui résonnent au sein d'une opinion publique et d'une opinion publique à Mayotte qui souffre, qui vit des situations extrêmement difficiles. La réalité, c'est que pour envoyer un étranger en situation irrégulière dans son pays d'origine, il faut obtenir un laissez-passer consulaire. Vous pouvez mettre un centre de rétention administrative sur terre, sur mer, dans l'air, où vous voulez. La réalité, c'est que sans ce laissez-passer consulaire et sans l'expiration d'un certain nombre de délais, vous ne pourrez pas renvoyer un étranger en situation irrégulière. Alors, Marine Le Pen, elle a sans doute, visiblement de ce que je lis du programme du Front National, la volonté de sortir des traités européens. Mais dans ces cas-là, il faut le dire. Parce que si on sort des traités européens, il y a des conséquences. Il y a des conséquences négatives aussi pour les ultramarins.
J'aimerais savoir si on a des chiffres concrets sur ces dernières années, pour parler plus globalement, de l'immigration clandestine. Est-ce qu'on a une baisse de l'immigration clandestine à Mayotte ces dernières années? Une baisse de la criminalité également sur l'île? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
En fait, l'île de Mayotte est peuplée de 330 000 personnes officiellement recensées.
On dit que c'est sous-estimé ce chiffre.
C'est probablement sous-estimé si l'on en croit les retours des élus locaux, si l'on en croit aussi le besoin d'école et de scolarité. Donc nous, on est en train d'affiner cette façon de calculer pour justement être au plus près. Si on doit réussir à avoir une meilleure finesse d'appréciation, c'est pas la peine non plus d'expliquer qu'il y a 600 000 ou 700 000 personnes à Mayotte. Il y a absolument aucun élément tangible qui permet de le dire. Donc évitons d'avoir des discours absolument faux et alarmants. Pour revenir à votre question sur les chiffres de l'immigration clandestine, nous, ce que l'on sait, c'est que on expulse 25 000 étrangers en situation irrégulière chaque année depuis 4 ans. C'est une augmentation de 80% par rapport à 2020. Voilà ce que l'on sait. On a sur cette population de 330 000 habitants une moitié de population qui est étrangère et la moitié de cette moitié qui est en situation irrégulière.
Est-ce qu'il faut taper du poing sur la table plus fort, entre guillemets, vis-à-vis des Comores?
Il faut taper du poing sur la table plus fort vis-à-vis de l'ensemble des pays qui sont à l'origine d'une immigration incontrôlée vers l'île de Mayotte.
C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas que les Comores, effectivement.
C'est ce que nous faisons. Après, il faut aussi bien doser les coups de menton et les discours très forts, et puis la réaction que peuvent avoir vos partenaires. Les Comores, il y a quelques années, ont fermé complètement l'acceptation de leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu délivrer le laissez-passer consulaire. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous tenons un discours exigeant avec les Comores, exigeant, qu'on réussit à renvoyer 25 000 étrangers en situation irrégulière de l'île de Mayotte, mais nous donnons aussi un discours respectueux des Comores.
Mayotte qui est touchée également par des cas de choléra, on en est où aujourd'hui? Est-ce que la situation est sous contrôle?
Il y a une épidémie de choléra qui se déroule dans les Comores, dans l'archipel des Comores, avec 1500 cas aujourd'hui estimés. Les services de l'État, l'Agence régionale de santé, le préfet, l'ensemble des services déconcentrés de l'État regardent avec une extrême précision l'ensemble de l'évolution de l'épidémie de choléra au large de Mayotte. Aujourd'hui, chacun des cas de choléra à Mayotte, 10 au total, ont été isolés et les personnes qui se sont retrouvées au contact de ces malades ont été traitées par antibiotiques et sont protégées de ce fait de tout risque épidémique. Et puis par ailleurs, je pense que c'est important de le dire, il y a des campagnes de prévention aussi, où il faut faire en sorte que chaque habitant de l'île de Mayotte, chaque Mahoré, fasse attention à bien respecter des règles sanitaires toutes simples, comme se laver les mains.
L'invité politique sur Sud Radio toute la semaine de 8h30 à 9h à partir de lundi, Jean-Jacques Bourdin qui reviendra de ses vacances bien méritées, qui vous retrouvera fidèlement à partir de 8h30. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Les temps forts de la semaine sur Sud Radio, c'est aussi ce premier anniversaire d'un média, Réel Média, fondé par Bernard de la Villardière. Il viendra célébrer cet anniversaire dans Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman dans un instant. On va parler aussi de la ville de Paris. Paris qui était une fête. Paris qui est devenu un enfer. C'est ce que pense l'invité d'André Bercoff. On en parle dans un instant. On préfère en rire sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio. Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Les résultats de l'école de 40 ans de politique égalitaire, et ben de pédagogie bienveillante, c'est plus d'inégalité, moins de connaissances, moins d'exigences et plus de violence. Hein, c'est la génération j'ai le droit, je viens comme je suis. Ben, le résultat, vous le connaissez. Quand j'étais gosse, le privé, c'était pour les nuls. Aujourd'hui, c'est pour les meilleurs. Les Français sont plutôt placides, mais leur soumission n'ira sans doute pas jusqu'à accepter de sacrifier leurs enfants.
Sud Radio, parlons vrai.
Garaison, imaginez un cadre accueillant et unique dédié à l'apprentissage et à la transmission. Un lieu où écoliers, collégiens et lycéens grandissent et étudient dans le meilleur des environnements. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, l'institut qui fait le lien entre tradition et futur. Ici, la vie en communauté rime avec exigence et valeur. Info sur garaison.com.
Sud Radio Clermont-Ferrand.
88.1.
Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bon réveil et bienvenue à vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Les actualités de ce samedi matin marquées notamment par la dette française et sa notation. Mais avant ça, on passe en revue les temps forts de la semaine sur Sud Radio. Dans quelques instants, Bernard de la Villardière, l'un des invités médias de Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Mais tout de suite, on parle de la ville de Paris. Paris que André Bercoff a adoré et Paris qu'André Bercoff aime de moins en moins, tout comme son invité.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Paris chante toujours, Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat.
Mais c'est vrai, Paris sera toujours Paris. Paris, c'est tellement fabuleux. La plus belle ville du monde, allez, disons-le. Et surtout en ce moment, assistons en ce moment. Et puis il y a quelqu'un. Un expert en communication politique, mais sulfureux, qui vient de créer un jeu de société qui s'appelle La Traversée de Paris, qu'on a reçu. La Traversée de Paris, on s'est dit, c'est formidable, c'est vrai, on est à un mois et demi des Jeux Olympiques, alors on va tous aller là-bas, puis des millions de gens vont venir du monde entier pour assister à ces grandes cérémonies. Mais alors comment faire? Eh bien, François Bellet a imaginé un guide, mais en forme de jeu, une espèce de monopoly géant sur Paris. Et vous allez voir, décrivez-le avant qu'on fasse parler François Bellet. Esteban Rania, vous avez joué avec Thibaut Sadler à cela. Vous en êtes devenu transformé, pratiquement bouleversé. On sent, ils ne tiennent plus, là, ils sont dans un état de totale décomposition. Pourquoi? Comment? C'est quoi ce jeu?
Bah oui, c'est vrai qu'André, il y a des émissions plus sympathiques et plus faciles à préparer que d'autres. Avec Thibaut Sadler, on s'est attelé, on a reçu le jeu de François Bellet, qui ressemble, on peut le dire, à un jeu de loi pour ceux qui connaissent. Alors vous avez un plateau avec des dessins vraiment magnifiques. Les graphistes ont fait un travail superbe. Et puis avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour évidemment, mais qui cache peut-être une part de vérité pour certains Parisiens. Alors vous avez un plateau composé de nombreuses cases, vous jetez un dé et puis vous tombez sur des cases bleues, vertes.
Comment s'appellent ces cases? Donnez-nous des exemples.
Alors je tombe sur une case bleue qui est une case mobilité urbaine.
Oui.
Et donc là, j'ai une remarque de la question, donc je pioche une question bleue.
Oui.
Et ça me dit, alors tiens, route bloquée à cause d'activistes du climat, la main collée à la route, restez sur votre case. Donc je suis bloqué, je peux pas avancer dans.
Ah bon, il y a des routes bloquées comme ça avec des fous du climat qui collent leurs mains. Oui.
Exactement.
Autre chose.
Autre chose. Ouais. Je tombe sur une case verte. Alors j'ai tiré le dé, j'ai fait 3, je tombe sur une case verte et là c'est une case question. Donc je vous pose une question, André, chers auditeurs, vous pouvez répondre. En 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Ou réponse C, près de 10000. Est-ce que vous avez une idée?
3000, 5000 ou...
Non. 5000, 8000 ou 10000?
Ou 10000. Je dirais 8000.
Eh bien, c'est 10000.
10000.
Ouais, donc là, vous avez perdu, vous restez sur votre case. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, François Bellet?
C'était parfait. C'était parfait. Quelle entrée en matière.
Alors, François Bellet, comment ça vous est venu? C'est vous est venu comment on peut comprendre, c'est vrai qu'en regardant ça, quand j'ai vu ça, je veux dire, c'est formidable parce que c'est très drôle et encore une fois, vous allez beaucoup vous amuser. C'est une description de Paris, je dois dire, d'un réalisme saisissant. Et vous êtes dit, voilà, je vais un peu montrer, faire un jeu et puis rire de cette espèce de d'hallucinante gestion de Paris.
Ouais, en fait, je dirais que l'idée, elle s'est fait un peu en deux temps. Le premier temps, c'est que, donc là, c'est vraiment une expérience du réel. J'étais dans l'enfer des embouteillages de la porte Maillot.
Ouais.
Et donc, j'étais dans ma voiture et je me rendais à un rendez-vous et je me suis retrouvé à l'intersection de la modernité, c'est-à-dire entre les travaux, les embouteillages, les altercations et puis cet esthétisme violent avec les travaux, les rénovations. Et puis, forcément, au volant de sa voiture, eh ben, soit on cogite, soit en tout cas on s'agite. Et j'ai commencé à me dire, traverser Paris est devenu une épreuve. Et voilà, clair. J'avais les trois mots-clés, les clés, donc c'était la traversée de Paris, qui est devenue donc l'épreuve olympique
qui est un grand
la plus difficile.
Et qui est un très grand voilà. film, vous
et
rappelez.
Et étant
bien sûr.
Adepte du détournement sur le plan publicitaire bien et communicationnel, sûr. La traversée de Paris, j'ai repris ça et j'en ai fait mienne. Et je dirais que j'ai validé cette idée-là aussi avec le contexte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de contenu produit sur une ville. Paris est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas autant de New York, de Sydney ou de Londres, c'est Paris. Paris, c'est devenu un sujet. Et donc, je me dis de fixer l'époque, de photographier l'époque dans ce quart de ce premier quart du XXIe siècle, ben, il fallait le faire, donc je l'ai fait.
Oui, mais alors, justement, vous l'avez photographié, mais de quelle manière, hein ? Pour le meilleur et pour le pire, moi, je regarde, justement, les découvertes. Découvertes, par exemple, découvertes touristiques, hein ? Démonstration du maniement de la machette par un Maudou. C'est quoi un Maudou, d'ailleurs ?
Oui, ben ça, c'est les vendeurs de crack.
D'accord.
Il y en a un peu partout dans Paris. Mais
ah
ce qui est intéressant, non, c'est effectivement de passer de case en case, et de vivre j'ai appelé ça des découvertes touristiques, mais finalement ce sont des épreuves de la vie urbaine contemporaine.
Bien sûr, non mais c'est par antiphrase que vous avez appelé
absolument.
Découvertes touristiques.
Absolument, donc c'est des attaques de rats, c'est des coupures de gaz, et en fait tout ce qui est écrit là, en fait c'est pas forcément une caricature, c'est vraiment une photographie, parce qu'en fait tout a été vécu, c'est des choses que et en fait j'aurais pu en faire un livre. D'habitude, j'écris des livres, des essais, mais j'ai trouvé que par le prisme du jeu, c'était plus intéressant, plus amusant.
C'est un jeu vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, quand même, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, 1500 ans d'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai, tir de mortier contre des consommateurs de crack, menace insistant devant une salle de shoot, chantier urbain en vrac laissé en jachère, alors ça c'est formidable, quartier plongé dans le noir après une coupure de courant, embrouille avec un vendeur de billets à la sauvette, rencontre fortuite avec un plug géant, et oui, ça se rappelle la place Vendôme. Hein.
Exactement.
Voilà. Et mouvement de foule dans un centre commercial. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est à la fois extrêmement ironique, mais vous êtes dur sur Paris. Hein, parce que Paris est une jungle, quand même. Quand on voit votre jeu, on se dit, là, c'est devenu la jungle.
Non, mais moi, pour moi, j'ai eu une approche naturaliste des choses, donc j'ai voulu faire... Voilà, j'aurais pu faire un petit texte écrit dessus.
Non mais c'est très drôle.
Mais alors ça c'est la dimension, je dirais satirique, polémique, mais presque photographique de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que certes on en ressort énervé de ce jeu, mais aussi on en sort informé. Donc il y a le quiz avec les fameuses cartes Paris tragique.
Ouais.
Et là c'est vraiment un quiz à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur la ville de Paris. Donc là on a cité les chantiers, mais par exemple sur le stationnement, qui est un vrai sujet, un autre fait marqueur de l'époque. Combien de FPS, vous savez, les forfaits post-stationnement, bon, est-ils été dressés à Paris en 2022? 2 millions, 3 millions ou 5 millions?
5 millions.
Bravo André.
5 millions.
Ben et tout ça, ça pose question derrière.
Non, mais tout à fait. Non, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des informations. Chaque carte donne une information. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple comme ça, vous devez en avoir. Alors, c'est très intéressant de savoir combien de départements français ont refusé d'accueillir le passage payant de la flamme olympique. C'est 7, Esteban. 7, 17 ou 37?
Je dirais 17.
17. En fait, 37.
Ah oui, voilà.
37, c'est absolument... Alors là, c'est magnifique, parce que ça, on connaît tous, enfin les Parisiens et tous les Français qui viennent à Paris. Quel est le temps moyen passé chaque jour par les Parisiens dans les transports en commun? 32 minutes, 42 minutes, 52 minutes?
Ah, je dirais 42 minutes.
52 minutes.
Berkoff, dans tous ses états, coincé dans les bouchons ou non d'ailleurs, vous retrouverez André Berkoff à partir de lundi à midi, heure sonnante et trébuchante évidemment. Elle est tout de suite place à Sud Radio Média, Gilles Ganzmann, Valérie Expert et leur invité.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann.
Avec Bernard de la Villardière, Réel Média sur X, sur les réseaux, Facebook, on le trouve
sur TikTok. C'est sur Facebook, TikTok. Instagram et TikTok pour l'essentiel.
Pourquoi Réel Média, je trouve ça pas sexy comme
mais
nom.
C'est génial, au contraire. Le réel, c'est la complexité, c'est être confronté à ses préjugés, c'est formidable le réel. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai voulu créer ma société de production, enfin, quand j'en rêvais, je me disais le jour où je l'appellerais, je lui donnerais un nom, j'appellerais Ligne de Front. Et en fait, le nom n'était pas déposé. Et je me suis dit, vraiment, bon, on a fait Néo, mais je m'étais dit, si on fait un nouveau média, je l'aimerais l'appeler Réel Média. C'est la confrontation à la réalité. Et la réalité, c'est passionnant. Et je vous rappelle la baseline, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Le réel vous oblige à être nuancé, vous oblige à changer de point de vue, à élargir votre horizon.
Ça veut dire que le reste est faux ?
Non. Oui, souvent on a des préjugés. Bah, tant qu'on n'a pas été confronté au réel, on ne sait pas très bien. Parlons du conflit au Proche-Orient là, en ce moment entre Israël, Gaza, etc. Si vous n'avez pas été une fois sur place, au minimum, même en tant que touriste, vous ne comprenez pas à quel point ce conflit se déroule dans un tout petit espace et à quel point il est dans les mentalités, il est dans les et le poids de l'histoire, etc. Il faut rencontrer les gens et quand vous rencontrez les gens, eh ben vous changez d'avis et vous voyez que le réel, vous oblige à vous adapter et à changer de point de vue.
Vous avez des avis bien tranchés, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il y a deux jours, vous reveniez d'Équateur. Vous avez tweeté « Retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues et des traînes savates, faux taxi sans doute, qui me traitent d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau. Point d'interrogation. Bienvenue en France. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»
Ah bah, c'était un coup de colère dans le taxi qui m'a ramené chez moi.
Vous arrivez à Paris et vous vous faites insulter ?
Oui, mais c'est de plus en plus le cas. J'ai été deux fois menacé de mort en France, à la fois à Saint-Brieuc et à Lyon, à quelques mois de distance, il y a quelques temps, par des gens qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais monsieur de la Villardière, on vous a reconnu, allez-vous-en, vous êtes islamophobe, on va vous trancher la gorge, on va vous égorger. On a prévenu nos amis, on va vous égorger. » Quand j'arrive à Roissy, c'est pratiquement systématique. Il y a beaucoup de faux taxis qui sont là, etc. Vous arrivez, c'est la cour des miracles. Et là, ils sont de plus en plus agressifs. Et je pense que c'est aussi... C'est pas que de simples incidents isolés, c'est une volonté de conquérir, d'occuper le territoire et de vous intimider. Et ça, je ne le supporte pas.
900 sujets, 300 millions de vues, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux en seulement un an.
Ouais, non, c'est un vrai succès dont on est très fiers. On a une rédaction d'une quinzaine de journalistes qui vont sur le terrain, ce qui fait un peu notre différence par rapport à Néo ou d'autres médias, c'est qu'on est beaucoup sur le terrain. On évite de reprendre des vidéos, on les reprend de temps en temps, on en reprend de temps en temps, bien évidemment, on fait pas de la curation, on fait du produit original avec des gens qui vont sur le terrain, avec des gens qui viennent s'exprimer dans le studio de Réel Média, et notre baseline, on en est assez fiers, notre signature, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Enfin, c'est une prolongation un peu de ce que je fais depuis des années dans Enquête Exclusive, et j'adore aller sur le terrain et me faire bousculer dans mes idées et dans même dans mes préjugés.
Alors comment c'est financé ?
Alors c'est financé par ce qu'on appelle le brand content, et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui il y a un vrai marché du brand content qui est en train de se développer. Brut et Combini ont enfin trouvé un équilibre économique après avoir perdu beaucoup beaucoup d'argent. Nous on s'est lancé plus tard, on est raisonnable évidemment, et si tout va bien on atteint d'ores et déjà notre équilibre économique. Et on va pouvoir faire une levée de fonds tranquillement d'ici quelques mois pour développer d'autres choses, notamment en matière de films institutionnels, de films de pub, etc.
Est-ce qu'il y a plus de liberté pour vous sur les réseaux pour
oui,
vous en tant que journaliste?
Oui, bien sûr. Et puis je pense que les réseaux sociaux, je dirais que c'est presque la télé de demain. C'est-à-dire qu'on peut tenter des choses qu'à la télé, on n'ose plus tenter aujourd'hui, notamment des formats. Ouais. On a créé plusieurs formats. C'est une situation sur les métiers, où les gens viennent parler de leur métier, à la fois à travers des anecdotes, mais à travers leur situation sociale, ce qu'ils gagnent chaque mois. Il y a une femme pilote de ligne qui est venue notamment témoigner. On a fait une série sur Marseille récemment, à travers de multiples prismes. Ça, il y a une diversité d'offres sur un même sujet, il y a une diversité de traitements de l'information, etc., sur des sujets qui font 6, 7, 8 minutes.
On est plus sur des reportages, encore une fois, qui sont... qui donne de la visibilité sur des engagements, qui donne de la visibilité sur des entreprises.
C'est un média qui
c'est
se...
un média, c'est, on va pas retrouver le Bernard de la Villardière d'enquête exclusive.
Non, hein. Pas du tout. C'est le média, pas des solutions, parce que c'est un mot qui est devenu un peu bateau, mais c'est le média dans lequel on met en valeur l'énergie humaine. En fait, l'objectif, ouais, c'est auprès des jeunes, notamment, puisque c'est eux qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, les 15-35 ans, mais aussi les 15-45 ans, parce qu'ils regardent aussi Facebook. À mon âge, on est beaucoup sur Facebook, évidemment. Et leur redonner un peu d'espoir et de courage et leur dire non, mais écoutez, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous dire demain c'est la fin du monde, parce que tout repose sur vous. Et en fait, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Mais l'humanité, elle peut s'en sortir si vous vous engagez et si vous rien n'est perdu.
Il y a
une idéologie effondriste là, enfin qui est manipulée par certains écolos radicaux et qui fait que le résultat, c'est que en matière de santé publique, vous avez un jeune sur 6 ou sur 7 de moins de 25 ans qui est en dépression.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment...
On l'appelle la génération moins en moins.
C'est invraisemblable.
Mais qui vous regarde? Vous savez, vous connaissez vos téléspaces?
Ça dépend un peu des réseaux sociaux, en fait. Sur TikTok, notamment, où on a plus de 160 000 abonnés, c'est les jeunes, les très jeunes, les 15-20 ans, ou même les 12-18-20 ans. Sur Facebook, c'est un peu plus âgé. Sur Instagram, c'est plutôt les trentenaires. Donc on a un assez large spectre. Et ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est beaucoup plus fin que médiamétrie, c'est-à-dire qu'on sait très bien qui nous regarde, à quel moment et combien de temps la vidéo est regardée. Ça nous aide aussi dans la manière de raconter nos histoires. Et on emprunte évidemment beaucoup à la télé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que les réseaux sociaux, il fallait clipper, il fallait faire du people, il fallait faire du clash. Et la bonne nouvelle avec Néo et aujourd'hui, ce qui s'est confirmé avec Réel Média, c'est que non, on peut faire des choses... Des vrais contenus avec des choses positives, avec de l'information. Moi, ce que je veux, c'est apporter de l'information. On a la volonté de devenir un média généraliste d'information sur les réseaux sociaux.
Vous dites que votre modèle, c'est le brand contact, mais est-ce que les marques influencent votre contenu? Par exemple, j'ai vu que vous aviez Electro Dépôt et BPI France ou AXA. Comment on les retrouve dans vos programmes? Est-ce que Electro Dépôt, vous allez faire un reportage sur le trafic des ordinateurs?
Non, pas du tout.
Mais comment se passe le mariage entre vos reportages?
Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de...
Alors, il y a 90 à 95% de nos contenus qui sont originaux, qui sont indépendants, qui ne sont pas financés par des marques. Donc voilà. En revanche, il y a 5 à 10%, peut-être demain, de nos contenus qui sont financés par des marques, mais on raconte une histoire avec elles. Par exemple, Electro Dépôt, on a raconté le recyclage des produits du blanc.
Ah, mais j'étais pas loin.
Voilà. On fait de l'information. Aujourd'hui, en fait, entre la communication, entre le brand content et le rédactionnel, il y a une épaisseur de plus en plus fine. Parce que les marques, quand elles communiquent, elles doivent raconter l'histoire et elles ne peuvent pas raconter de fausses histoires et faire du fake news.
Sud Radio Média, que vous retrouvez toute la semaine de 10h à 10h45 sur Sud Radio avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Allez, restez avec nous après les temps forts de la semaine. Place au temps fort de ce samedi. L'actualité de ce samedi matin, on parle de la dette française notamment, mais pas que. On se retrouve dans un instant avec toute l'équipe du Grand Matin Weekend. À tout de suite.
Sud Radio, votre avis fait la différence.
J'adore vous inviter, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Mont-de-Marsan.
94.1.
Sud Radio.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bonjour à vous tous sur Sud Radio, bienvenue à vous. Bonne fête aux Zita, bonne fin de vacances au Bordelais, tiens, au Clermontois, et à tous les autres qui rentrent de vacances. Bonne vacances aussi aux Corses qui commencent ce week-end, justement. C'est un peu tard pour des vacances de Pâques, mais pourquoi pas, profitez-en les amis. On est ravis de vous accompagner, soyez prudents sur la route si vous êtes concernés par la route ou l'autoroute des vacances. On est ensemble jusqu'à 10h, je le disais, on va parler de la dette, je le disais, et on va parler d'un répit inespéré. pour le gouvernement français, et en particulier le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La dette française n'a pas été dégradée par les deux agences de notation, Moody's et Fitch. C'est la nouvelle qui est tombée dans la nuit finalement. On ne s'y attendait plus, tout le monde était persuadé qu'on serait dégradé. Bref, qu'est-ce que ça change pour l'État? Qu'est-ce que ça change pour la France? Et est-ce que malgré tout, le gouvernement peut encore éviter une cure d'austérité? C'est une des questions qu'on vous pose ce matin sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez. On vous pose une autre question aussi, suite au blocage de l'école Sciences Po en plein Paris, rue Saint-Guillaume, avec des étudiants qui portaient un keffiyeh qui bloquaient l'école. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de la mobilisation des étudiants de Sciences Po pour Gaza? Est-ce que vous pensez que c'est courageux ou au contraire que c'est ridicule? Pareil, vous votez sur Sud Radio. Parlons vrai, tout le monde a la parole. 0826 300 300, justement celui qui vous attend au standard de Sud Radio, c'est Jordan Rakotozafi. Bonjour à vous, mon cher Jordan.
Bonjour à tous.
Nous sommes également avec le réalisateur Julien Delmas. Salut Julien.
Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde.
Nous sommes avec Théo Ampillac. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Ça joue à Clermont ce week-end?
Ça joue contre le Stade Français ce soir.
Bon, voilà.
À domicile en plus, donc on espère qu'ils vont gagner cette fois-ci.
Exactement, je sens que vous préférez parler du rugby que du football. En tout cas, je l'aurais noté. Tiens, justement, la sportive de l'équipe qui est de retour. Bonjour Morgane Thomas.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Toute l'actualité sportive de ce week-end, on y reviendra avec vous dans le journal des sports et puis la revue de presse dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à vous sur Sud Radio.
L'horoscope Sud Radio.
Et bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le samedi 27 avril. Bélier, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Une aide non négligeable pourrait tomber du ciel. Testez la chance avec le hasard. Taureau, voici le moment de vous détendre. Permettez à votre organisme de se régénérer dans la décontraction la plus totale. Gémeaux, un vent de liberté souffle et vous encourage à vous exprimer, à prendre des décisions, à vivre plus intensément. Cancer, vous n'avez pas envie de faire d'efforts trop intenses durant votre week-end. Ne refusez pas les sorties entre amis. Lion, la lune est un peu brusque. Si quelqu'un n'est pas tout à fait en harmonie avec vous, évitez de le lui dire dès les premières minutes. Vierge, vous tirez profit d'une situation. Il semblerait que c'était ce que vous attendiez depuis quelque temps. Votre banquier sera content. Balance, cette journée se veut joyeuse et innovante à souhait. Vous n'aurez aucune difficulté à argumenter votre point de vue. Scorpion, évitez de vous tourmenter pour un rien. Si quelqu'un vous fait remarquer un détail qui vous agace, zappez. Sagittaire, une trop grande